Maintenant. Où on va maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se bider. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Les routes musicales sur Couleur FM.
Bonjour. Après notre parenthèse spatiale, nous redescendons sur Terre. Nous traversons l'Atlantique pour prendre les routes de la première puissance mondiale, les États-Unis. En 2009, Barack Obama accède à 47 ans à la présidence américaine. Telle une tornade, il est réélu en 2012 après avoir battu son challenger républicain Mitt Romney. Il réaffirme alors qu'il se battra contre les inégalités de revenus, qu'il réformera l'éducation américaine et qu'il croit en une Amérique un petit peu plus généreuse. Et pourtant, 8 ans plus tard, les noms des villes de Ferguson, Baltimore, Chicago ou Miami n'en finissent plus d'allonger la liste des faits divers et des différentes émeutes qui démontrent le quotidien de la majorité des Noirs américains. Pour ce nouveau numéro, nous partons sur des routes musicales avec des chansons qui nous amènent sur des routes du chagrin des Noirs américains et on tentera de comprendre pourquoi en 2016, la population noire américaine est dans un tel état d'anxiété, de nervosité et de colère. Suffering that worsens. Black human packages tied up in strings. Black rage can come from all these kinds of things. Black rage is founded on blatant denial. Squeezed economics, subsistence survival. Deafening silence and social control. Black rage is founded on wounds in the soul. When the dogs bite, when the bees sting, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so bad. Black rage is founded, fed us self-hatred, lies and abuse, while we waited and waited. Spiritual treason, this grid and its cages. Black rage is founded on these kinds of things. Black rage is founded on training and training, finding your freedom to stop your complaining, poisoning your water while they say it's raining.
Body. Life out of context is living ungodly.
2014, les États-Unis connaissent les plus importantes émeutes raciales depuis celle de Los Angeles en 92, où un automobiliste noir se fait battre par 4 policiers blancs. La scène filmée choque les Américains, les policiers sont acquittés, des émeutes éclatent. 20 ans de paix raciale volent en éclats. Et en 2014, c'est Lauryn Hill, dans le titre Black Rage, qui sont une parenthèse dans sa discographie aujourd'hui pratiquement absente, hein, qui partage dans Black Rage le lendemain de l'assassinat de Michael Brown, un adolescent noir qui est désarmé et qui est abattu de 6 balles par un policier blanc à Ferguson, dans le Missouri. Alors cet épisode n'est pas isolé, les policiers américains tuent en moyenne par an 400 personnes. Pour titre de comparaison, la police allemande en 2012 n'a tué que 8 personnes. Alors, la mort de Michael Brown a déclenché un mouvement de protestation dans tous les États-Unis. On se souvient de ces longues émeutes qu'on a vues dans les médias français. On a compté 160 arrestations de manifestants, une quinzaine de journalistes arrêtés, un couvre-feu et même l'intervention de la garde nationale. Alors aux États-Unis, il faut comprendre que les manifestations ne sont pas considérées comme un mode légitime d'expression politique. Et donc obligatoirement, toutes manifestations sont réprimées. Et donc ça, les répressions, toutes ces manifestations sont obligatoirement des émeutes, sont jugées des émeutes. Alors un exemple, hein, dans l'histoire américaine, en 1932, il y a une manifestation d'anciens combattants au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est des anciens combattants qu'on appelle la Bonus Army, qui a été réprimée, elle aussi, par une charge de cavalerie, des baïonnettes au canon. On envoie l'armée, c'est avec même le général MacArthur qui fera ses preuves pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, et qui fait 4 morts et plus de 1000 blessés. Lors du mouvement des droits civiques dans les années 60, les jeunes blancs qui avaient rejoint les manifestations aux côtés des noirs avaient été eux aussi considérés comme des loubards, et ça avait été sidéré, en fait les blancs avaient été sidérés par la violence de la répression policière contre les noirs qui manifestaient. Donc en fait, il y a véritablement, il faut comprendre que la manifestation aux États-Unis est vue comme une émeute. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce policier a été en contact avec ce jeune adolescent et pourquoi ça nous a amené sur ce bilan catastrophique de Michael Brown tué et puis de ces 400 personnes qui sont tuées à peu près par an. Alors, il faut comprendre que la police, il y a pour eux un argument. La police a jugé sur Michael Brown, il y a un facteur. Alors, on explique. Pour le policier, le crime qui a attiré l'attention du policier sur Michael Brown, c'est d'avoir traversé la rue en dehors du passage piéton. Alors, vous allez me dire, ça va pas aller jusqu'à la mort. Et pourtant, si. Pourquoi les polices américaines s'intéressent-elles à des infractions aussi, limite vénielles, aussi bêtes, quoi? Eh bien, parce qu'en fait, ils mettent en œuvre des stratégies qui sont fondées sur une régularité statistique de la criminalité. Chaque criminel, en fait, répond à une statistique, à des pourcentages. Alors, parce qu'elles mettent en œuvre ces stratégies, donc à l'aide de logiciels de cartographie, et les policiers identifient les hotspots criminogènes. Donc traverser la route est un hotspot criminogène. Et donc en fonction de ça, on alloue des moyens humains qui ont pour mission d'arrêter les suspects potentiels autant que possible. Et donc Michael Brown fait partie de ces potentiels suspects. Donc tous les individus passant par là, qui commettent dans cette strate des hotspots criminogènes, tous ceux qui passent par là, qui commettent des infractions mineures, sont arrêtés préventivement, c'est-à-dire avant qu'ils aient commis un crime sérieux. C'est ce qui s'est passé pour ce jeune adolescent. Donc évidemment, les policiers savent que parmi les individus arrêtés et retirés de l'espace public, il y a une probabilité élevée que l'un d'eux allait commettre un crime plus grave. Donc les commissaires, dont les chiffres sont mauvais, ils perdent leur commandement en plus. Donc il faut faire du chiffre. En retour, qu'est-ce qui se passe? C'est pour les jeunes noirs qui se font arrêter juste parce qu'ils marchent pas sur un passage piéton. Alors c'est hallucinant pour nous la France, mais enfin aux États-Unis c'est le quotidien des jeunes noirs. Bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils détestent cette pression perpétuelle que fait exercer la police sur eux. Et donc les parents enseignent ça à leurs enfants, les adolescents enseignent ça à leurs jeunes copains dans les rues ou même dans les écoles, et qui se méfient. En fait, ils doivent se méfier de la violence et dirons-nous irrationnel, erratique des policiers. Alors, si la criminalité s'est effondrée dans les années 90, c'est aux États-Unis plus de 2,2 millions de personnes qui sont en prison, dont 45% de noirs. La prison, c'est véritablement la surveillance policière plus le contrôle judiciaire. C'est devenu pour certains jeunes adolescents noirs eh bien une expérience structurante. Et ils se réfèrent à ça. Les hommes noirs américains se réfèrent à la surveillance policière, aux prisons, au contrôle judiciaire. Donc en fait, l'emprise de l'État pénal eh bien, va briser les familles, va briser le tissu communautaire, va briser l'éducation de l'école, va briser la culture. Et donc, petit à petit, ces jeunes s'éloignent des institutions et de la prise en charge normale d'un service social, d'un hôpital et d'une école. Eh bien, je vous propose d'écouter, à mes yeux, le plus grand aujourd'hui rappeur américain qui traite de ce sujet-là, qui est Kendrick Lamar dans le titre All Right en 2015.
Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like, Lord knows. 20 of them in my Chevy, tell them all to come and get me. Reaping everything I sow, so my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal. I don't think about it. I deposit every other zero. Thinking of my partner, put the candy, painting on a Rico. Digging in my pocket, ain't a profit big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. I don't talk about it, be about it. Every day I see cool. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright, alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
I hear my head up high across my heart. Loving me is complicated. Too afraid. Nights in my prayers.
I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me.
Kendrick Lamar offre en 2015 une des plus belles chansons sur la vie des Noirs américains avec son titre « All Right ». Alors, vous entendez le long de la chanson « Nigga » qui veut dire « négro ». En fait, il chante des êtres perdus dans les rues de peur qu'on veuille les tuer à chaque coin de rue. Alors, je cite « Quand tu sais, on nous a blessés, mis à terre déjà nigga, quand ma fierté est humiliée, je regardais le monde en disant genre où on va, nigga, on déteste les flics, ils veulent nous tuer dans la rue, c'est sûr ». Kendrick Lamar met en avant l'errance des Noirs américains qui recherchent simplement une justice et dénonce cette sauvagerie policière qui est, aux yeux de la police, le seul moyen de maintenir dans les grandes villes américaines comme Détroit, Baltimore, l'ordre. Les tribunaux, eux, n'apportent aucun recours crédible à tout ce fléau amené par la violence policière. Barack Obama, même au lendemain des violences à Baltimore, mettait en avant que rien n'était nouveau dans ces meurtres, que les Noirs afro-américains pauvres étaient les plus touchés. Continuons avec plusieurs portraits à travers la chanson et je vous propose qu'on recule un tout petit peu en arrière en 1963 avec le titre de Coltrane et Alabama.
Thank you.
15 septembre 1963, quatre fillettes noires sont tuées dans une explosion d'une bombe dans l'église baptiste de la 16e rue Birmingham, Alabama. Deux mois plus tard, Coltrane enregistre Alabama en hommage aux fillettes assassinées. Un morceau, une pièce lente, envoûtante, sur laquelle semble planer l'esprit des quatre adolescentes. En 1994, la géographe et sociologue Nicole Bacharan, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et chercheur associé à la Fondation nationale des sciences politiques, retrace l'histoire de ce peuple noir au sein de la société blanche américaine. Elle montrait, même si des grands affrontements sont révolus, que l'intégration de la société n'est pas si évidente et que le problème d'une société multiethnique n'est absolument pas clos encore aujourd'hui aux États-Unis. Déportés dès le XVIIe siècle, les Noirs, esclaves dans le Sud, sont libérés avec la guerre de sécession en 1861. Et la lutte pour les droits civiques commence à émerger parallèlement et irrite en parallèle donc les Blancs. Loin d'être libres, les Noirs passent alors de l'autorité du code esclave au code noir. Ce système rassure les Blancs et persuade les Noirs de leur infériorité. Donc tout le XIXe siècle, les Noirs sont cantonnés à des travaux dégradants, mal payés, ils sont reclus dans les ghettos où règnent crime et insécurité. En parallèle, des clans secrets contre les Noirs, et c'est Jill Scott Heron dans The Clan qui nous le chante.
I said, brother.
Avec ce titre, Jill Scott Heron décrit avec brio la terreur que faisaient régner les hommes du clan au sein des communautés noires du sud des États-Unis. Jill Scott Heron, élevé dans le vieux sud par sa grand-mère, gagne le nord du pays et poursuit ses études à la Fieldston School du Bronx à New York, grâce à une bourse d'études. Il écrit deux romans qui passent assez inaperçus, et puis se lance dans la musique avec Brian Johnson. Il développe un style assez hybride, à la croisée entre le jazz, la soul, le funk, et ses chants sont scandés, on appelle ça le spoken word. Et puis ça annonce en fait l'émergence du rap de la fin des années 70, début des années 80. Donc c'est des textes assez véhéments qui décrivent, là pour le texte Clan, le sinistre quotidien des ghettos noirs des États-Unis des années 70. Ces titres deviennent de véritables chroniques des problèmes politiques et sociaux dont lui-même souffre au quotidien. Donc il s'impose comme un vrai défenseur inlassable de la cause noire américaine. Il dépeint une Amérique malade dans les années 70, dans les années 80, avant de revenir dans les années 2000 avec son dernier album avant de mourir en 2011. Donc misère, violence, racisme, drogue, qui gangrène un pays alors en plein doute. Et même le président Nixon, en plein apartheid en Afrique du Sud, à ce moment-là, Jill Scott Heron ne s'interdit aucun thème et il gratte là où ça fait mal, et surtout sur la présidence de Nixon. Donc en revenant sur le titre Clan, il fait référence, en fait Jill Scott Heron fait référence au lynchage, aux inégalités, aux violences qui font rage alors dans les années 60, où commencent alors à se créer des organisations comme le National Association for the Advancement of Colored People, ou tout simplement, plus communément appelé le Ku Klux Klan, qui est défenseur de la race blanche, des WASP, et de la suprématie blanche. Donc c'est une véritable guerre raciale qui éclate dans tous les États-Unis, milieu du XXe siècle. Donc, et c'est là qu'on voit, en fait, face à ça, les Noirs trouvent donc du réconfort dans les églises noires, et puis dans les chansons spirituelles, dans le blues. Et on voit apparaître des leaders noirs, déjà dans les fins des années 19e siècle, 1850-1900, comme Booker T. Washington. Et puis petit à petit, plus connu, qui est Martin Luther King ou Malcolm X. Donc les guerres mondiales sont une source de désillusion pour les Noirs, hein, qui comptent éprouver leur valeur et leur égalité, et en fait qui participent à la Première Guerre mondiale, puis à la Deuxième Guerre mondiale, et qui reviennent de ces guerres sans que rien ne change, même s'ils se sont battus pour le drapeau américain. Donc c'est véritablement tout le paradoxe de la société états-unienne qui est dénoncé dans le texte de Jill Scott Heron. Comment peut-on tolérer ainsi la discrimination raciale alors que c'est un pays qui porte dans le monde entier l'égalité de tous? Et c'est ce qui frappe encore plus en 1945 avec la Charte des Nations Unies qui préconise le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Nouveau portrait à partir d'une chanson, celle de Bob Dylan, Oxford Town, en 1963.
Oxford Town, everybody's got their heads bowed down. Sun don't shine above the ground, ain't going down to Oxford Town. Down to Oxford Town, guns and clubs followed him down, all because his face was brown. Better get away from Oxford Town. Oxford her tine around the bend. Come to the door, he couldn't get in, all because of the color of his skin. What do you think about that, my friend? My guess, son, we got met with a tear gas bomb. I don't even know why we come, going back where we come from. Oxford town in the afternoon, everybody singing a sorrowful tune. Two men died neath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon.
Bob Dylan, Oxford Town, 1963. Le Mississippi reste un des États les plus opposés à la déségrégation, si vous voulez, à l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Donc, il faut savoir que dans le Mississippi, dans les années 60, la loi fédérale n'est pas appliquée. Et donc, pour l'exemple qui est chanté dans la chanson de Bob Dylan, les universités restent la plupart du temps réservées aux Blancs. C'est le cas de l'université d'Oxford. Donc en fait, cette politique, et c'est ce que nous chante Bob Dylan en 1963 dans Oxford Town, cette politique ségrégationniste est remise en cause par un jeune noir, James Meredith, et lorsqu'il demande à être admis à l'université en 61. Évidemment, refus de l'administration d'université, mais la Cour suprême donne raison à Meredith et impose son admission. Et donc des officiers fédéraux ont pour mission de l'escorter dans l'enceinte de l'université. Mais JFK, John Fitzgerald Kennedy, doit dépêcher des troupes sur l'ensemble du campus. C'est 20 000 soldats qui sont sur l'université en 1961-1962. Et donc c'est investi, parce que l'université est investie par des émeutiers, hein, des blancs essentiellement, hostiles à l'admission du jeune noir. Le bilan de ces émeutes s'élève à 2 morts et des centaines de blessés. Meredith persiste et il obtient son diplôme en 1963. Et c'est ce que chante Bob Dylan dans ce texte « Oxford Town ». En fait, ça nous permet de mettre en perspective que dans le domaine de l'éducation, et c'est une lutte acharnée qui a lieu. En effet, les enfants noirs sont sans cesse dévalorisés et sans cesse défavorisés dans toutes les écoles des États-Unis. Donc la déségrégation scolaire, elle est certes condamnée par la Cour suprême en 54, mais la loi, elle est loin d'être respectée. Vous avez aussi le cas dans les transports scolaires avec le fameux cas le fameux exemple de Rosa Parks en 1955, qui est une noire du sud des États-Unis, Montgomery, qui refuse de laisser sa place assise à un blanc dans un bus. Elle en découle le boycott des bus, et qui est une opération qui a été dirigée par le pasteur noir, le fameux pasteur noir Martin Luther King. C'est petit à petit, en fait, dans les années 50-60, s'il faut retenir quelque chose, c'est petit à petit, on va vers les droits qui se donnent à la population noire. Et John Fitzgerald Kennedy et Martin Luther King vont assurer petit à petit ces droits civiques à la population noire. Alors, un petit peu de joie et un petit peu de bonheur à travers le titre de Nina Simone, « I wish I knew how it feels to be free », qu'elle chante en 1967. Je vous laisse savourer ce titre très sucré.
What it means to be me, then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be stuck.
J'aimerais savoir ce qu'on ressent quand on est libre, j'aimerais pouvoir rompre toutes les chaînes qui me retiennent, j'aimerais pouvoir dire toutes les choses que j'ai à dire, dites-le fort, dites-le clairement, pour que le monde entier l'entende. Alors, toutes ces libertés des droits civiques, Nina Simone nous chante en 67, mais elles sont, vous l'avez compris, très très longues pour les Noirs américains. En effet, plusieurs luttes victorieuses entre les années 50 et 70, donc la déségrégation scolaire de Little Rock en 57, les sittings des étudiants dans les bars et les commerces pour qu'il n'y ait plus de ségrégation, mais la non-violence ne marche pas toujours, hein. Martin Luther King poursuit son combat, il va acquérir une certaine popularité, il touche tout le monde, comme sur la marche de Washington en 63 avec son fameux célèbre, sa phrase célèbre « I have a dream ». En 64, le président Johnson signe la loi sur les droits civiques, mais que représente la citoyenneté si la pauvreté règne au niveau de la population noire américaine? Le monde entier est horrifié surtout par le dimanche sanglant en 1965 que l'on appelle le dimanche de Selma. La violence est usée sur les noirs qui désirent tout simplement la possibilité d'aller voter. Même si la loi sur le droit de vote est signée en août, les officiers fédéraux contrôlent son application dans le Sud dans les années 60. Alors, si la non-violence ne fonctionne pas, évidemment, il y a des personnages qui apparaissent et qui, eux, prônent la violence. Et c'est Malcolm X, alors très rapidement, qui se fait le porte-parole des musulmans noirs. Il prône la supériorité de la race noire, de sa beauté et du pouvoir noir. Et donc, on va vers un séparatisme totalement radical. Et notre sociologue Nicole Bacharan, en 94, montre bien que l'unité de ce mouvement, eh bien, entre les non-violents et les violents, s'effrite. Et donc, les dissensions explosent au grand jour et les libertés sont réduites. Pareil, dans le Nord, il y a les problèmes, des problèmes sociaux se rajoutent et qui sont de plus en plus importantes avec le fort taux de chômage et de pauvreté. Et donc, des émeutes éclatent en 65 dans le Nord et ça se traduit par l'agressivité et puis la création du groupe le Black Power avec les Black Panthers qui est créé en 66. Alors, des années 60-70, Nicole Bacharan souligne que le racisme est plus profond et plus inavoué, tout simplement parce qu'il porte sur l'égalité des chances. Les Noirs n'ont pas accès aux responsabilités que les Blancs ont et ni aux richesses du pays. En 68, c'est la mort de Martin Luther King. Malgré une journée de deuil national, eh bien, les Noirs sont las et découragés de cette accession aux libertés. Et puis, ils ne croient plus du tout au grand projet révolutionnaire. Alors, tous les présidents qui vont succéder, eh bien, vont tenter, malgré tout, d'apporter l'égalité entre les deux populations. Donc, Nixon, qui fait marche arrière sur la question raciale et qui va ensuite en 76, c'est le principe de l'action affirmative, c'est-à-dire on va vers une plus grande égalité raciale, on donne aux Noirs des postes de responsabilité. Évidemment, cette politique déplaît à certains blancs, hein, qui parlent de discrimination à l'envers. Donc c'est la dite discrimination positive. Et puis les présidents suivants dans les années 80-90, comme Reagan, Bush, vont adopter une position différente en favorisant les riches. Hein, les riches noirs, voilà. Donc la pauvreté va s'accroître, le racisme et les préjugés sont de plus en plus importants dans les années 80-90. C'est ce qui va changer par contre sous Bill Clinton, qui lui va s'attaquer avec des mesures sociales pour diminuer la pauvreté et donc lutter contre les discriminations. Donc les Noirs américains ont réussi à se forger en parallèle leur propre culture, c'est-à-dire un mélange d'influences à la fois sur la culture du pays américain et puis sur la culture africaine, et puis ils commencent à profiter d'être admirés pour des exploits sportifs, mais aussi d'assumer leur couleur de peau. Alors on le voit dans le sport, on le voit dans la chanson, et puis qu'ils peuvent réussir. Et il y a la création de cette middle class noire qui devient de plus en plus importante dans les années 90 et dans les années 2000. Et donc je crois que c'est intéressant pour analyser les années 2000 et surtout les années 2010 d'écouter la dernière chanson de Beyoncé en 2016 qui s'appelle Formation, où elle assume totalement sa condition de noir.
What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. I'm popular, the man.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Oh, I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. I earned all this money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag. Swag.
Ooh, yeah, baby. Oh yeah, yes, I like that.
I did not come to play with you hoes. I came to slay, bitch. I like cornbread and collard greens, bitch. Oh yes, you best to believe it.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Oh, I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. I earned all this money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my bag. Swag. I see it, I want it.
Twirl on my haters, haters, albino alligators, twirl, a Camino
information. I slay. Okay, ladies, now let's get information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper.
Alors, durant les années 2000-2010, les Noirs ont connu véritablement une illusion de prospérité économique et un déclassement réel. Alors, le salaire médian des Noirs a augmenté plus vite que le salaire médian des Blancs entre les années 80 et 2000. En même temps, il partait tellement bas que c'était facile. Donc en fait, il y a eu un effet de rattrapage. Mais depuis les années 2000-2010, la tendance s'inverse et de nouveau, les inégalités de revenus se creusent. Alors, prenons un exemple. Le taux de propriété de logement et de consommation des ménages noirs, lui, a continué d'augmenter jusqu'en 2004 pour atteindre des niveaux historiques. Et puis là, il est en train de chuter. Alors, comme on le sait, tout simplement parce qu'il y a moins de crédit du côté des populations noires, des familles noires. Et surtout, il faut voir, en fait, ce crédit à parabon bon marché. Les Américains ont profité de ces crédits entre 2004 et 2008 bon marché, essentiellement les populations noires, et elles ont été les premières touchées par la crise des subprimes en 2008. Et on le voit bien parce que cette crise a creusé les inégalités de patrimoine entre les noirs et les blancs. En 2010, les ménages noirs sont en moyenne 10 fois moins riches que les ménages blancs. Et donc ce revenu médian a diminué de 25%. Alors il faut savoir qu'on repart à zéro dans une société américaine où l'éducation, la santé et le logement en fait sont très chers. Eh bien les populations américaines s'enfoncent de nouveau dans la pauvreté et puis dans l'exclusion. Eh bien, ça se caractérise, cette classe moyenne noire, et n'a plus accès aux grands diplômes universitaires américains, et donc inégalité de patrimoine, inégalité de revenus. Donc suite à, en fait, après 30 ans de progrès économique pour les familles noires, eh bien, on a de nouveau un déclassement social. Donc c'est là qu'il faut comprendre que face à ce désenchantement, la classe moyenne noire a développé en fait un scepticisme croissant envers le processus d'intégration raciale. Donc le taux de ségrégation dans les villes diminue légèrement depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'il y a la ségrégation dans les villes, ça veut dire qu'il y a un mélange, il y a un melting pot qui commence à se faire au niveau de l'urbanisme, au niveau de la géographie urbaine. Mais vous inquiétez pas, hein, les blancs américains se sont elles mis dans les suburbs, c'est-à-dire dans les banlieues américaines, qui n'ont absolument pas la même signification et la même notion que chez nous en France. Donc les actes de discrimination, eux, augmentent de nouveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les blancs et les noirs ne vivent plus ensemble et ont peur de l'un ou de l'autre. Donc, et tout ça, ça a mis les noirs de nouveau, même plus dans le centre-ville, puisque les centres-villes redeviennent en fait riches, c'est ce qu'on appelle la gentrification. Par exemple, vous avez l'exemple du Bronx à New York, qui aujourd'hui est redevenu en fait blanc, avec pour les classes très riches, quoi. Donc les noirs, pour les noirs américains, comme le noir de Ferguson, c'est tout le système social qui est en train de s'éroder en 2000 et toute l'espérance qu'ils ont mis dans Barack Obama qui a chuté. Donc voilà, en fait, notre route musicale s'achève aujourd'hui. Nous avons essayé de comprendre pourquoi les États-Unis, première puissance mondiale, subissaient toutes ces émeutes et que cette population noire américaine souffrait. En secret, souffrait de son côté, alors qu'elle a mis au pouvoir un président noir. Je vous propose qu'on termine de nouveau par un autre titre de Gil Scott Heron. Pourquoi lui ? Parce que c'est un héros noir américain qui s'est donc battu pour les droits civiques des noirs américains. Et il est connu parce que, avec ses slogans radicaux, surtout dans son, je vous renvoie sur le titre The Revolution Will Be Not Televised, désolé pour mon anglais, qui est une grande violence contre la dictature des médias, justement sur les discriminations qui sont faites envers les Noirs. Et donc, je vous renvoie avec ce dernier titre de son dernier album, avant que Jamie XX ne le remixe. Je vous souhaite une bonne journée et on à la prochaine pour un nouveau numéro des Routes Musicales.
I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. Met a woman in a bar, told her I was hard to get to know, and nearby impossible to forget. She said I had an ego on me, the size of Texas. Well, I'm new here, and I forget. Does that mean big or small? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. And I'm sitting places like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have. Voice reason. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle and be new here again. Turn around, turn around, turn around. Come full circle, be new here again. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle.
Savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Ne te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas.
Les routes musicales sur Couleur FM.